Io.
C'est vrai, Seigneur, que nous désirons célébrer ta grandeur, ta sainteté, tes perfections, ta puissance, ton amour, ta bonté envers nous. Et quand nous regardons à toutes ces choses et que nous osons nous comparer à toi, eh bien, Seigneur, nous nous sentons vraiment très, très, très petits et indignes de nous tenir devant toi. Mais nous te louons, Seigneur, parce que en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, tu nous as rendus dignes. Et c'est par lui que nous nous tenons devant toi ce matin, que nous sommes là pour te rendre ce culte. Et c'est par lui aussi que nous te prions et te demandons de venir en aide pour ce moment de prédication que tu nous accordes de comprendre ta parole, d'être encouragé par elle, d'être repris si cela est nécessaire, et sans doute que c'est en tout cas un peu nécessaire, et que nous puissions, par ta grâce, par ton amour, par ton Esprit Saint, être rendu plus conforme à ta volonté, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Amen.
Amen. Amen.
Avant de retourner dans Hébreux, nous lisons un texte dans Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Hébreux, chapitre 5, et nous lisons depuis le verset 11 jusqu'au verset 3 du chapitre 6. Hébreux, chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Le passage que nous abordons aujourd'hui est écrit à la fois sur le mode ou le ton du reproche et celui de l'exhortation. Reproche, parce que les Hébreux ne se sont pas suffisamment pris en main pour progresser dans la foi, pour progresser comme on aurait pu s'y attendre si on considère tout le temps qui s'est maintenant écoulé depuis le jour où ils ont connu l'Évangile. Quant à l'exhortation adressée aux Hébreux, c'est celle de ne pas en rester là, de ne pas se décourager, mais plutôt de tendre maintenant à ce qui est parfait, à rechercher la perfection de Christ. L'auteur a donc commencé, dès le début de ce cinquième chapitre, à nous parler de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Supériorité du sacerdoce de Jésus sur la totalité du sacerdoce lévitique. Infinie supériorité, comme on l'a vu la dernière fois, en ce que, contrairement au sacerdoce lévitique, en particulier celui du souverain sacrificateur, qui devait chaque année venir dans la présence de Dieu avec le sang d'un animal sacrifié, afin d'obtenir le pardon de ses propres péchés et celui des péchés du peuple, le sacrifice du Seigneur Jésus, quant à lui, a été offert une fois pour toutes, et Jésus n'est pas venu avec le sang d'un taureau ou d'un bouc, mais avec son propre sang. Et ce sang-là, ce sacrifice-là, a une valeur éternelle. Cet unique sacrifice, cette unique offrande, est seule capable de nous sauver de la colère de Dieu qui vient sur le monde à cause du péché. Il n'y a que par le sang de Jésus que nous puissions trouver la paix avec Dieu, à l'exclusion de tout autre moyen. Car nous ne devons pas nous tromper, Dieu ne se satisfera pas des efforts des hommes qui cherchent à paraître justes en se donnant bonne conscience par toutes sortes d'artifices. Il ne se satisfera pas non plus de leur religiosité, et que leur religion ait la bonne ou la mauvaise étiquette n'y changera rien. Parce qu'une pratique religieuse ne peut pas nous obtenir le salut, ne peut pas nous obtenir une place dans le ciel. Aucune pratique. Mais surtout, Dieu, à cause de sa sainteté et de sa justice, mettra un jour un terme à sa patience. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. C'est un temps où les pécheurs ont encore la possibilité de se repentir et de courir, se réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant ce temps de la patience de Dieu que les élus sont rassemblés, que le bon berger appelle et fait rentrer toutes ses brebis dans la bergerie. L'apôtre Pierre affirme, 2 Pierre 3,5, que la patience de Dieu est notre salut. Et exactement comme dans les jours qui ont précédé le déluge, où la patience de Dieu a permis à Noé de construire l'arche, puis d'y rassembler sa famille et tous les animaux de la terre, le moment venu, quand tous ceux que Dieu avait destinés à sauver de la destruction se sont trouvés en sécurité, la patience de Dieu a pris fin et les pluies diluviennes se sont mises à tomber. Plus personne ne pouvait dorénavant être sauvé. La patience de Dieu était arrivée à son terme. La Bible nous dit qu'un jour, tous nous devrons comparaître devant le tribunal du Christ et que toutes les pensées, toutes les paroles et tous les actes, bien sûr, des hommes, seront jugés à l'aune de la parole de Dieu, c'est-à-dire d'après la sainteté de sa loi. Il va sans dire qu'aucun homme sur la terre, et ça dans tous les siècles, quelques siècles que ce soit, aucun homme ne pourra satisfaire aux exigences élevées de la loi de Dieu. Ce qui signifie que tout homme sera reconnu coupable devant Dieu. De lui-même, il est impossible qu'un homme se présente devant Dieu sans que le jugement tombe comme un couperet. Coupable! C'était déjà le verdict de l'apôtre Paul au début de son épître aux Romains, au chapitre 3. Vous savez, dans ce passage, il cite les psaumes 14 et 53 qui disent que sur la terre, il n'y a pas de juste, que personne n'est intelligent, puisqu'aucun homme de lui-même ne cherche Dieu. Qu'en fait, tous sont égarés, tous sont pervertis, qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et ensuite, Paul affirme encore que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu quoi ? Soit reconnu coupable devant Dieu. Et c'est ce qu'en effet nous sommes tous devant lui par nature. Et de nous-mêmes, par nous-mêmes, à cause de cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, il n'y a aucune échappatoire possible à ce verdict terrible. Devant la sainteté de Dieu, je suis coupable et dois donc subir la condamnation que méritent mes nombreux péchés. Ainsi va l'élémentaire justice, celle que nous réclamons tous. Celle que nous réclamons tous quand nous nous sentons lésés par quelqu'un ou par une loi que nous jugeons injuste. Nous proclamons justice, nous réclamons justice. Eh bien, Dieu aussi. Mais voilà la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient dans son nom, qui reconnaissent leur péché et s'en détournent, reçoivent un plein pardon et vivent pour toujours dans l'amour de Dieu. Et ça, mes bien chers frères et sœurs, mes bien chers amis, c'est tout simplement l'œuvre de notre souverain sacrificateur, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Le reproche de l'auteur de notre épître aux Hébreux, le reproche qu'il fait au destinataire de sa lettre, c'est que, bien qu'il ait beaucoup de choses à leur dire à propos du sacerdoce de Christ, elles sont difficile à expliquer. Mais cette difficulté ne provient pas avant tout de ce qu'il est en train d'expliquer, c'est-à-dire de cette comparaison qu'il est en train de faire entre Jésus et les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Mais c'est difficile à expliquer tout simplement parce que ses lecteurs ne sont pas affermis dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas les bases suffisantes pour comprendre ce que l'auteur souhaiterait leur dire. Et ça, c'est dans tous les domaines. Si je n'ai pas les bases suffisantes pour comprendre les métiers de l'électronique ou de l'informatique, ce sera difficile à un électronicien ou à un informaticien de m'expliquer son travail. Mais dans la vie chrétienne, c'est tout à fait pareil. Comment pourrions-nous nous contenter de peu de connaissances et de peu de pratiques dans un domaine qui englobe finalement tous les autres. Puisque notre métier de chrétien, si je peux m'exprimer comme ça, notre métier de chrétien est celui qui nous ouvre les plus belles perspectives d'avenir. Vous avez vu, ce qui semble bien ressortir du texte, c'est dans la deuxième partie du verset 11, c'est que pour ces chrétiens d'origine juive, le problème, ce n'est pas tant leur lenteur dans la progression de la connaissance de Dieu, ce qui serait déjà bien dommage, mais c'est plutôt que, avant, ils comprenaient, au début de leur conversion à Jésus-Christ, ils ont fait des progrès notoires dans la foi. Au point qu'au verset 12, il leur dit qu'à ce taux-là, d'après comme ils progressaient au début, ils auraient dû depuis longtemps devenir des maîtres. Vous savez ce que c'est un maître ?
C'est quelqu'un qui est capable d'enseigner d'autres personnes.
Mais en fait, non, vous n'êtes pas devenus des maîtres, puisque vous êtes devenus lents à comprendre.
La traduction Martin est bien plus incisive. Elle dit, vous êtes devenus paresseux à écouter. Paresseux à écouter. La chair qui freine, qui résiste. On comprend ce qu'il veut dire, n'est-ce pas ?
Ne sommes-nous pas paresseux, nous aussi ?
Et là, vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une paresse dans l'action. L'auteur ne dit pas qu'il devrait en faire plus, mais qu'il devrait être plus mûr dans la foi. Avec tout le temps qui a passé depuis qu'ils sont devenus chrétiens, être capable d'enseigner d'autres frères et sœurs, plus jeunes, dans la foi. Alors c'est certainement vrai pour nous aussi. On ne progresse pas comme on le devrait. La maturité chrétienne n'est généralement et malheureusement pas un but important que nous nous fixons pour notre vie. L'exercice corporel est utile à peu de choses, dit l'apôtre Paul, tandis que la piété est utile à tout, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. 1 Timothée 4:8. Quelles sont vos priorités ? Quelle place l'exercice de la piété prend-il dans votre vie ? Que faites-vous ? Puisque vous avez été crucifié avec le Christ, que faites-vous pour que la chair ne soit pas la maîtresse de votre vie, mais que, au contraire, elle n'ait pas droit au chapitre ? Lui faites-vous comprendre à votre chair qu'elle est morte, qu'elle était clouée sur la croix ? Hélas, dit l'auteur de l'épître à ses lecteurs, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, qui depuis longtemps auriez dû parvenir à une belle maturité chrétienne par une connaissance intime des vérités spirituelles de la Bible, et tout simplement par une connaissance intime du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez encore besoin de lait, sous-entendu de lait maternel. Il aurait pu écrire, « Mais pauvres, vous en êtes encore au biberon. À votre âge, vous devriez en avoir honte. » Mes amis, pour dire franchement, ce n'est pas pour vous flatter, c'est pour essayer d'être juste et pour vous encourager. Je ne pense pas que dans notre Église, nous ayons encore tellement besoin de lait. Les enseignements que nous recevons chaque semaine me font penser que nous assimilons assez bien la nourriture solide. Et même parfois que les os à ronger ne nous font pas peur. Suivez mon regard, mes pensées. Peut-être avons-nous parfois un peu de peine à digérer cette nourriture, mais les progrès sont palpables grâce à Dieu. Alors veillons à ne pas nous endormir. Ce fait observable de nombreux chrétiens qui sont paresseux à écouter, qui est une situation tout à fait actuelle dans l'Église d'aujourd'hui, en tout cas de ce qui s'appelle l'Église, est due, je pense, à deux facteurs principaux. Premièrement, les conducteurs spirituels qui ne cherchent pas à élever le niveau, non seulement au travers de leur enseignement, mais aussi par leur comportement, par l'exemple qu'ils donnent. Et deuxièmement, les chrétiens, de manière générale, ignorent ou oublient leur responsabilité qui n'est pas de rester des enfants toute leur vie, mais d'apprendre à devenir spirituellement adultes en cherchant à la fois à comprendre l'Évangile, c'est-à-dire
l'amour de Dieu répandu dans leur cœur, et à la fois ce qui devrait découler de la connaissance de cet amour. D'abord une sainte crainte de Dieu, comme il nous l'a été rappelé dimanche dernier, et ensuite une vie de serviteur de Dieu et du prochain. Et ça, dans la certitude constante de la proximité du Seigneur et de son intervention dans les circonstances de nos vies. Alors maintenant, comme je le disais tout à l'heure, l'auteur de l'Épître ne veut pas laisser les Hébreux là où ils en sont, c'est-à-dire dans leur situation de rétrogradation. Après le reproche, l'exhortation, l'encouragement. C'est comme s'il leur disait, bon, vous êtes revenus en arrière, vous êtes redescendus en bas de l'échelle, et bien maintenant, montons plus haut. Il ne leur dit pas « montez » parce qu'il va les aider à le faire. « Montons ensemble plus haut. » Oui, tendons à la perfection ensemble. N'en restons pas au béaba de nos connaissances bibliques ou tout simplement de notre connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous contentons pas d'une connaissance superficielle de l'Évangile. Non, parce que Dieu nous a donné une intelligence et que par la régénération de l'Esprit-Saint, régénération qui nous a permis de devenir enfants de Dieu, par cette régénération, notre intelligence a été renouvelée, en sorte que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Et si Dieu nous a donné de les comprendre, eh bien, ajoutons au trésor de notre foi les merveilles que Dieu nous communique dans sa parole. Mais peut-être quelqu'un parmi nous posera la question, est-ce bien utile, est-ce bien nécessaire d'augmenter notre trésor de connaissances spirituelles? Je répondrai non, s'il ne s'agissait que de connaissances abstraites ou même intellectuelles, qui n'auraient d'autre but que de nous faire, que de faire de nous des espèces de spécialistes de la Bible. Alors qu'il ne s'agit bien sûr pas de ça. Si nous n'étions que des spécialistes de la Bible, nous risquerions de nous enfler d'orgueil, ou tout au moins d'enfler notre cerveau, sans que cela n'ait aucun effet sur notre vie. L'apôtre Paul le disait bien, la connaissance enfle. Elle nous fait bomber le cerveau et parfois aussi le torse. Ce n'est bien entendu pas de ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a ça qu'il souhaite conduire ses lecteurs, mais au contraire, à une connaissance qui nous permette d'accéder petit à petit à la perfection de notre foi et donc à la perfection de notre conduite. Puisque nous agissons d'après ce que nous croyons. C'est bien ce dont nous parle notre passage. Les chrétiens mûrs dans la foi ne sont pas des personnes super intelligentes, super douées. Elles peuvent l'être, oui. Mais ce n'est pas ça le critère. Non, ce sont simplement des chrétiens qui ont appris avec le temps et en étant attaché à Jésus-Christ et à sa parole, ils ont appris à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont des chrétiens dont la conscience n'est pas émoussée par le péché, par le compromis, par l'hypocrisie. Ils alignent leur vie sur la parole de Dieu. Sans se laisser infecter ni par les pratiques mondaines, ni par les fausses doctrines et autres inventions humaines qu'on peut parfois trouver dans l'Église. Nous parlions mercredi dernier, lors de l'étude biblique, des pressions qui sont exercées autour de nous et contre nous, dans le monde, mais dans l'Église aussi. Des pressions pour que nous nous relâchions de notre fidélité à la parole de Dieu, pour que nous adoptions les grandes idées à la mode, et il y en a, pour que nous embrassions nous aussi le mouvement œcuménique qui s'aborde l'évangile sur l'autel d'une prétendue unité des chrétiens. Mes amis, l'enfant de Dieu dont le jugement est exercé, ce que la Bible appelle ailleurs un homme fait, parviendra à se prémunir de tous ces pièges. Il s'agit donc d'être habité par les perfections de Dieu qui nous sont révélées dans sa parole. Et c'est alors, sans aucun doute, cette connaissance-là qui nous gardera de faire naufrage ou de tomber dans les pièges du diable. Cette connaissance faisait justement défaut dans l'esprit des Hébreux. Et c'est pour ça qu'ils étaient retournés en arrière aux prescriptions de la loi de Moïse. C'est aussi à cause de l'ignorance des perfections de Dieu qu'aujourd'hui, des chrétiens se laissent séduire par les faux docteurs qui enseignent qu'on ne peut pas être sauvé seulement et uniquement par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Non, ils disent qu'il faut encore observer telle ou telle chose, telle ou telle fête juive, ou nous appliquer à suivre à la lettre telle ou telle règle, ou encore imiter rigoureusement les pratiques de l'Église primitive, vendre tout ce que nous possédons et le donner le produit de la vente à l'Église pour que cet argent soit partagé à ceux qui sont dans le besoin. C'est très beau. Nous réunir tous les jours pour partager le pain, mais nous réunir exclusivement dans les maisons. Et pour le culte du dimanche, pareil. Vivre aussi sans smartphone et sans ordinateur. Non, ça c'est moi qui rajoute. Pour montrer que rien ne nous oblige à vivre exactement comme la première Église. Rien ne nous oblige. Non, parce que la maturité chrétienne implique que nous avons une grande liberté. Comme nous avons vu ça dans les prédications de l'Épître aux Romains. Et la vraie maturité chrétienne, c'est en fait Romains 12. Romains 12 qui parle lui aussi de ce discernement dont nous devons faire preuve. Et Paul, au début de ce 12e chapitre, disait « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Sous-entendu, en vous détournant de ce qui est mauvais et corrompu. Mais il le dit, Paul, au verset 9 de ce 12e chapitre, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. » Et après, vous vous en souvenez peut-être, il y a de nombreux préceptes qui concernent la vie chrétienne toute pratique. J'avais appelé cette longue liste de préceptes les commandements de l'amour. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, évidemment non. En ce qui concerne l'œuvre du salut, on ne peut rien ajouter à la perfection du sacrifice de Jésus-Christ, à la perfection de son sacerdoce, sous peine de le rendre inefficace pour nous, comme le démontre si bien l'Épître aux Galates, en particulier Galates 5, 2. Et donc, chaque fois qu'on cherche à le faire quand même, et aussi chaque fois qu'on essaie de hisser quelqu'un, qui que ce soit, aux côtés du Seigneur Jésus, pour rendre cette personne co-rédemptrice, c'est-à-dire qui participe à notre salut aux côtés du Seigneur, chaque fois que nous empruntons ce chemin-là, ou que nous sommes tentés de le faire, c'est parce que nous avons été séduits par de fausses doctrines. Et cette séduction provient soit de notre ignorance de la vérité que Dieu nous a révélée dans sa parole, soit de notre incrédulité face à cette parole. Certainement un peu les deux. Et c'est donc justement ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut venir corriger chez ses lecteurs, et il le fait d'ailleurs à travers toute sa lettre. On passe maintenant au 6e chapitre. Et pour comprendre précisément ce que l'auteur veut dire dans les premiers versets, il est intéressant de regarder comment la Bible Martin a traduit ce passage. Écoutez bien. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendons à la perfection et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Pour le moment, c'est surtout sur le début de la phrase que nous voulons nous arrêter. Il y a un instant, l'auteur de la lettre disait que les Hébreux en étaient malheureusement toujours au lait, qu'ils n'étaient pas en situation de prendre de la nourriture solide, de la viande, en fait. Ici, au début du chapitre 6, il nous semble comprendre en quoi consiste ce lait. Ce sont les premiers principes du christianisme. Le béaba, comme je le disais il y a un moment. Oh, on en a sûrement besoin de nous rappeler régulièrement des fondements de notre foi. Tellement c'est beau, tellement c'est important, tellement ça nous indique aussi à quel point l'évangile est simple. C'est vrai, tout au long de cette prédication, on pourrait se dire, ouais, mais la vie chrétienne, finalement, c'est une complication invraisemblable. Et puis non, en fait, l'évangile, mais c'est tout simple. Et ça, c'est dans les fondements. Donc un fondement, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec une fondation? On peut demander à Claude Alain s'il était souvent arrivé de devoir faire les plans d'une fondation sans qu'il y ait en dessus une maison. Ça t'est arrivé? Non. Voilà. Ouf. Non, ça n'arrive jamais qu'on coule les murs d'une fondation sans y bâtir ensuite dessus une maison. Et en fait, on pourrait même dire, finalement, la fondation, on la voit plus. On ne voit plus que la maison après. Et là, les Hébreux, ils en sont restés à la fondation. Donc, pourrait-il en être autrement en ce qui concerne notre foi? Je reviens juste un instant sur la simplicité de l'Évangile. La simplicité de la fondation de notre foi, ce qui nous permettra de faire ensuite le joint avec la suite du texte. Oui, à propos de la simplicité de l'Évangile, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon dernier séjour en Lozère et aux nombreuses visites qui ont été faites, pour la plus grande partie sur les causes et chez de nombreux éleveurs de brebis, aussi quelques veuves. Cette année, plus que les autres fois, il a été possible de leur parler de l'Évangile, du salut en Jésus-Christ, de la nécessité de lire la Bible, du danger des guérisseurs aussi. Il a été possible de leur parler de ces choses, à de nombreuses personnes, et je dirais autant d'hommes que de femmes. Et la plupart se considéraient comme croyants. Certes, pas très pratiquants, à part quelques-uns, mais quand même d'honorables catholiques. Seulement, hélas, à deux ou trois exceptions près, ces gens, qui n'avaient, disait-il, vraiment rien à se reprocher, ignoraient presque tout de l'Évangile. Presque tout. Et si d'aventure ils en avaient quelque idée, mais c'était dans la plus grande confusion de leur esprit. Bref, ce que je veux dire, et ça m'attriste en pensant à tous ces gens que j'aime et qui m'accueillent vraiment, ça m'attriste en pensant que ces gens-là sont laissés à eux-mêmes, qu'il n'y a personne pour les enseigner, pour les accompagner. Plusieurs d'entre eux sont à la tête d'immenses troupeaux de brebis. Mais eux, ils n'ont pas de berger. Donc ce que je veux dire, c'est que pour ces personnes du cause, pour ces causenards, c'est inutile de vouloir leur donner de la viande. Ils ont besoin de lait. Ils ont besoin d'être enseignés dans les premiers principes du christianisme, le béaba de la foi chrétienne. Et ça, comme le dit le début de ce sixième chapitre, c'est la repentance, le renoncement aux œuvres de la chair, la conversion, en fait, le changement des dispositions morales d'une personne qui a été régénérée et qui désire suivre le Christ. Dans les œuvres mortes, on inclut donc les péchés, bien entendu, mais aussi les œuvres légales.
Je quitte les cosnards. Hein,
celles qu'on juge indispensables pour être sauvées. C'est ça, les œuvres légales. Aucune œuvre, même aussi bonne soit-elle, ne peut nous procurer le salut. Rappelons-nous de cette parole de Paul, à nouveau dans Galates 5-6, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc nos œuvres prétendument méritoires sont mortes parce qu'elles ne servent à rien dans le processus du salut, parce que rien venant de nous-mêmes, même pas notre obéissance, et ni même notre foi, rien ne peut nous permettre de gagner le salut. Étant donné qu'il est pure grâce, du début à la fin, il ne s'obtient que par le moyen de la foi. On le reçoit par la foi. C'est pas là. On ne l'acquiert pas par la foi. C'est pas une monnaie d'échange, la foi. Mais on le reçoit par la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, comme le dit ici le début du verset 2. Vous pouvez regarder au chapitre 9, verset 14 d'Hébreux, où l'auteur dit que le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Et c'est lorsque nous en sommes purifiés de ces œuvres mortes que nous sommes alors capables de vraiment servir notre Dieu. Quand nous le servons, on peut dire gratuitement, sans que notre service soit une monnaie d'échange pour gagner quelque chose de la part de Dieu. Ensuite, il est parlé de la doctrine des baptêmes. Il y a donc plusieurs baptêmes. Lesquels ? Essayons de les dire dans l'ordre. D'abord, le baptême de repentance, que Jésus appelle le baptême de Jean, parce que c'est Jean-Baptiste qui administrait ce baptême-là. Il ne s'agissait pas encore de la foi en Jésus-Christ. Mais les Juifs, certains d'entre eux tout au moins, reconnaissaient en écoutant la prédication de Jean qu'ils étaient pécheurs. Et alors ils se rendaient compte qu'ils déplaisaient à Dieu. C'est ce qui les conduisait à venir vers Jean pour qu'il les baptise après qu'ils aient confessé leurs péchés. Plongés dans l'eau pour être lavés de toutes leurs fautes. Il ne s'agissait donc pas encore de nouvelle naissance, mais seulement de repentance. On pourrait dire qu'avec Jean-Baptiste, on avait fait seulement la moitié du chemin. Quel est le baptême suivant ? Très bien. C'est le baptême du Saint-Esprit. Oui, tout à fait.
Ce n'est pas le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau n'est que le signe visible de la réalité invisible du baptême de l'Esprit. La réalité invisible qu'est la régénération du cœur de l'homme. Régénération, justement, produite par cet événement que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit précède, tout logiquement, l'immersion du croyant dans les eaux du baptême. Cette eau qui ne symbolise plus le lavement, la purification, comme le baptême de Jean, mais la nouvelle naissance, comme le dit si bien Paul dans Romains 6. Nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et nous sommes donc aussi ressuscités avec lui, ce qui illustre la sortie de l'eau, comme la sortie de la tombe. Voilà donc en peu de mots et de manière très simplifiée ce qui concerne la doctrine des baptêmes. Il est possible que l'auteur de l'Épître ait eu en vue encore d'autres choses, notamment les différentes ablutions qui étaient pratiquées dans la tradition juive. Quant à l'imposition des mains, disons simplement que nous voyons dans l'Écriture que l'imposition des mains était relativement courante dans l'Église primitive.
Entre autres, elle accompagnait, comme ça se fait d'ailleurs encore aujourd'hui, la prière adressée à Dieu en faveur du nouveau baptisé. On imposait aussi les mains pour une guérison. Chez les Israélites, une personne qui venait offrir un sacrifice pour le péché imposait les mains sur l'animal qui allait être égorgé. Ce qui signifiait que cette personne s'identifiait avec l'animal, avec cette mise à mort, comme nous nous identifions par le baptême cette fois à la mort du Christ. Et enfin, en ce qui concerne la résurrection des morts et le jugement éternel, nous pouvons dire que ce sont deux doctrines qui ont une grande place dans toute l'Écriture, mais en particulier dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus y revient d'ailleurs souvent. Mais il est vrai, si on veut placer, comme le fait l'auteur, ces deux doctrines dans les fondements du christianisme, il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir constamment si nous voulons parvenir à la maturité spirituelle, à la maturité chrétienne. Voilà, on va s'arrêter là, parce que je préfère ne pas m'attaquer aujourd'hui aux 5 versets suivants, qui sont difficiles et qui mériteront pas mal d'explications. Mais disons quand même, d'ores et déjà, que ces versets 4 à 8 du chapitre 6 doivent être directement rattachés aux reproches dont nous avons parlé au début, quand l'auteur blâmait ses lecteurs d'être devenus paresseux à écouter la voix de Dieu. Pour aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous exhorte à devenir des hommes parfaits, à ne pas rester des bébés dans la foi, ce qui serait un péché. En fait, la Bible affirme que nous le sommes déjà, des parfaits, si nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ. Hébreux 10, 14 affirme que par une seule offrande, notre Seigneur Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Si le Seigneur l'a déjà fait pour nous, c'est donc que c'était sa volonté que nous le soyons, que nous le devenions des parfaits. Et si c'est la volonté de Dieu que nous soyons des parfaits, et que nous le sommes par la foi, ne devons-nous pas alors tendre à cette perfection? Ne nous a-t-il pas sauvés en vue de cette perfection? La réponse nous est donnée par le texte d'Éphésiens que nous avons lu au début. Et j'en relis, pour conclure, quelques versets. Le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.
Amen.